Aujourd'hui, dimanche 18 mars, je vais bien. Je vais bien, enfin, je vais pas mal. Je vais pas mal, mais je suis un peu emprunté, pour vous dire la vérité. Oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage et je ne sais vraiment pas quoi faire. Du coup, pour ne pas faire de bêtises, je crois que je vais rien faire du tout. Non, je vais plutôt passer un petit coup de fil à Arlette Laguillet. Alors non, elle ne me connaît pas, mais comme aujourd'hui c'est son anniversaire, ça lui fera sûrement plaisir. Elle a 78 ans, sacrée bonne femme cette Arlette quand même, porte-parole de lutte ouvrière pendant 35 ans. 35 ans à faire des manifs dans le froid, à bouffer de la merguez froide et à boire de la bière tiède. 6 fois candidate à l'élection présidentielle, 6 fois, la dernière fois c'était en 2007, 1,33%. Ennemie farouche des patrons et de tout ce qui a du pognon en général, Arlette est un symbole de résistance prolétarienne à jamais gravé dans le cœur de la 5e République. Ah, alors, est-ce que c'est le cas pour toutes celles qui sont nées un 18 mars, cet engagement prolétarien basé sur le partage des richesses? Peut-être. Allez savoir. Et en même temps, quelque chose me dit que non. Non, c'est pas parce qu'on est né un 18 mars qu'on est une féroce partisane du partage. Bon anniversaire quand même à vous, qui avez 43 ans aujourd'hui, chère Laetitia Hallyday. Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, bien entendu, aux femmes exceptionnelles, ça va de soi. Pour m'accompagner, l'homme qui, tour à tour, peut être cultivé, drôle, spirituel, absurde, mais surtout brillantissime, Albert Algout, comment allez-vous?
Voilà, je suis écrasé de rougeur de joue et de modestie, ou d'immodestie, je ne sais pas.
Et sinon, ça va?
Oui, ça va très très bien, mais vous savez que je ne suis pas seul.
Ah, oui, c'est vrai que vous êtes habité.
Oui, il y a le père spirituel d'Albert qui est là, le père Albert, c'est moi. Et puis, il y a aussi un journaliste, le neveu d'un journaliste célèbre. Qui
j'ai vu passer aussi un chanteur basque.
Un chanteur basque, oui. Le neveu d'un chanteur basque.
Le neveu d'un chanteur basque que j'ai vu passer. Et j'ai également vu passer un très haut gradé militaire.
Ah oui, le neveu d'un célèbre maréchal.
Très bien. Autre élément incontournable de vous les femmes, l'homme au micro. Eh, un métier n'est pas facile.
Si vous trouvez que salopard est excessif, c'est votre affaire.
Ah oui, c'était le délicieux Jean-Luc Mélenchon qui répondait, ou pas, à Hervé Pochon. Comment allez-vous?
Alors moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Mathieu Vidard. Vous parlez que de Laetitia Hallyday, d'Arlette Laguillet. Il faut penser aux gens de France Inter. Et puis vendredi, c'est celui d'Albert. Donc Albert, ça se prépare la fête
Oui, hein, très activement.
Bon, merci Albert.
Et Albert, puisque vous parlez, là, vous avez la parole, je vous la redonne. C'est, vous partez en courant après, à la fin de cette émission. Vous êtes en dédicace, puisqu'on est en plein Salon du Livre à
France
Inter.
Oui, je vais au Salon du Livre pour lire des textes, des extraits de textes. Des Cœurs Simples, qui est édité chez Casterman, qui est un livre dont les droits d'auteur sont au profit d'une association, enfin d'un fonds de dotation, le fonds de dotation La Bonne Aventure, pour aider des adultes autistes sans solution ou en très grande difficulté.
Voilà. C'est juste après l'émission, si vous voulez faire dédicacer Les Cœurs Simples, Albert Algout sera là, il le fera avec grand plaisir. Je ne vous fais plus attendre, nos invités en ce dimanche 18 mars sont...
France Inter, Vous les femmes... Daniel Morin.
Éducation religieuse, élevée au grand air. Elle avait tout pour devenir quelqu'un de bien. Pourtant, patatras, dérapage, elle est devenue auteur BD, scénariste, dessinatrice. Elle vient nous voir aujourd'hui pour évoquer la suite des Filles des oiseaux, un tome 2 sorti avant-hier chez Dargaud. Florence Sestac, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais très bien, très bien.
Alors ce Salon du Livre, vous êtes très occupé, là vous passez votre journée à Radio France.
Je suis allée hier et je retourne encore ce soir, voilà.
Très bien, écoutez, on vous y rejoindra tout à l'heure. Merci pour cette petite parenthèse pour venir nous voir en studio. Face à vous, Florence, elle a été élue Miss Régionale, elle a été vendeuse d'huile d'olive. Elle a même tenté d'assurer la promotion du Chubut. Chubut, une région de Patagonie, c'est en Argentine. À Canal+, elle est tête de gondole au rayon rugby et médias avec le tube et le canal Rugby Club. Isabelle Utzurburu, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que j'ai bien prononcé?
Utzurburu, très bien.
Comment
Chubut,
allez-vous?
Un peu moins. Ça va et vous?
Ah oui, c'est,
Chubut.
Chubut. Très bien. Promotion du Chubut. Quoi de neuf?
du rugby, pas mal de rugby, un week-end forcément.
C'était un énorme week-end de rugby.
Exactement.
D'accord, on invite tout le monde à bien sûr vous rejoindre tout à l'heure pour le canal Rugby Club. Vous aussi, vous devrez foncer à la fin de l'émission. Merci, oui. Merci d'être resté.
Mais tu vas te retrouver tout seul alors?
Je sais pas quoi. Non, je serai là, Daniel.
Ok, je préférerais être seul. Bon, ouais. C'est une présentation un peu sommaire, hein, j'en conviens. Mmh. Pour mieux vous connaître, je vais laisser la parole à nos collaborateurs. C'est à vous, Père Albert.
Merci. Cher Daniel,
oui.
Comme une fois de plus, trop feignasse pour le faire vous-même, vous me demandez de présenter vos invités.
Florence Sestac, coco Florence. Et Isabelle Iturbiré, hello Zabou. Je vais m'acquitter de cette mission avec autant d'objectivité que de franchise. Mais comme le temps qui m'est imparti est hélas plus court qu'un short de louveteau, je vais m'efforcer de concentrer mon propos. Permettez-moi cette image de le concentrer comme le lait sucré en tube dont je garnis le sac à goûter de mes jeunes quand nous partons pique-niquer pardon, dans le bois de Boubou. Où je vous rappelle que garer ma camionnette bâche et cuir clouté noir...
Ne perdez pas le fil, mon père, s'il vous plaît.
Bon, où en étais-je? Ah oui, le mieux pour présenter vos invités, Daniel, est de souligner ce qu'elles ont en commun, ce que je fais d'habitude. Et le point commun entre Florence Sestac et Isabelle Iturbiru, c'est l'ovalie. Je veux parler des formes ovales qui sont celles des balles comme celles des bulles. Des balles de rugby et des bulles de BD. D'ailleurs, les deux sont appelées ballons. D'un côté, le ballon à deux bouts, comme l'appelait l'écrivain Jacques Perret, fan de rugby. De l'autre, les ballons, les phylactères. Comme on dit chez les intellectuels, que les auteurs de bandes dessinées comme toi, Florence... Bonjour Florence, ah, je t'ai déjà salué. Prête à leur personnage pour leur donner la parole.
Les carrières sont quand même très différentes, hein, Père Albert.
Mais ferme si ton bec, ferme-la. Ferme ton... Daniel,
oui,
l'autre...
c'est ça, c'est mon nom.
Non, j'allais être vulgaire. L'autre analogie entre Florence et Isabelle, c'est que toutes deux s'épanouissent dans des domaines où j'ai du mal à dire leur nom. Bref, les créatures en mamelles n'ont rien à faire.
Enfin, mon père, vous êtes dans vous, les femmes, tenez-vous.
Mais raison de plus pour mettre en garde les femmes... les auditrices, celles qui nous écoutent. Pour pratiquer moi-même le rugby, je peux vous dire que c'est une affaire d'homme.
Vous jouiez à quel poste?
Je faisais le ballon. Uniquement sous la mêlée pour entraîner mes jeunes, en les encourageant à s'empoigner, à se percuter, à se mordre les oreilles. Oh, je revois cet entre-là, un an de bras musclés et de jeunes cuisses gonflées. Les crampons m'écrasaient, me talonnaient, me raclaient, me piétinaient. C'était rude, brutal, bestial. Ça sentait le coffre et la sueur mal. Oui, mal, mal, ça faisait mal. Mais c'était bon.
Calmez-vous, mon père.
Ah oui, c'était bon. Comment pourrais-je me calmer, Daniel? Quand en invitant Isabelle Iturbiru, vous incitez les jeunes filles à pratiquer un sport pour elles contre nature, qui fera d'elles des boules de muscles et de vis. Comment pourrais-je me calmer quand en plus vous encensez Florence Sestac, auteureux, aujourd'hui, de bandes dessinées, autrices, tristes, qui sont autant de défis aux bonnes mœurs que de refus de la légitime acceptation par les femmes du sort inférieur que le Seigneur leur assigne. Comme dans ces BD, la fée caca, le démon de midi ou le démon du soir. Florence Sestac, qui ajoutant le blasphème à la blessure, crie de l'Asie et de Colibé, comme disait Aznavour, mes collègues à voile et à cornette, les virginales bonnes sœurs, dans Filles des oiseaux, tome 2 et tome 1, qui rejoindra l'enfer de ma bibliothèque. Voilà, si j'en avais eu le temps, Isabelle et Florence, j'aurais procédé sur vous à un exorcisme flash. Mais je n'en ai pas le temps. Bonne émission quand même.
Merci mon père, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Après tout le monde va partir pour cause d'émission rugby ou alors pour signature. Au Salon du Livre, Radio France, Salon du Livre Inter qui nous occupe jusqu'à demain soir. Barry White, Change, vous les femmes jusqu'à 18h sur France Inter. Change, Barry White, dans Vous les femmes sur France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h.
Vous les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Et nous avons la chance d'être en compagnie de Florence Sesta qui signe la BD Les Filles des Oiseaux, le tome 2 chez Dargo. Le livre est paru avant-hier. Et Isabelle Uturburu, présentatrice du Tube depuis septembre 2016, l'émission média de Canal+, le samedi à 12h45, également Canal Rugby Club dimanche. C'est le top 14, évidemment. C'est à 18h35 en clair sur Canal et c'est en compagnie de Sébastien Chabal, c'est ça?
Oui.
Absolument. Nous allons évoquer quelques dates de votre parcours. Mesdames, on commence par vous, Florence, si vous le voulez bien. On commence en 1968, époque les Beaux-Arts de Rouen, rencontre avec Étienne Robial. Après, c'est Paris, les Arts Déco et j'ai lu, j'aimerais que vous précisiez, vous avez été emprisonné à Draguignan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Eh oui, j'ai été condamné pour vol et destruction d'emblèmes nationaux.
Vous avez détruit quoi?
En juillet 72, on avait descendu tous les drapeaux sur les mairies du 14 juillet. On avait arraché le bleu et le blanc, et on avait remonté le rouge.
Quelle honte!
J'ai fait 18 jours de préventive à la prison de Draguignan, qui était
18
à l'époque
jours
la plus moderne de France. Et oui.
Vous gardez un bon souvenir?
Pas vraiment, mais c'était effectivement expérimental. Oui, oui.
1972, c'est reprise de la librairie Futuropolis et fondation de la maison d'édition du même nom.
Oui, après. Oui.
Ouais. Donc racontez-nous après cette aventure, parce que c'est pas rien de fonder une maison d'édition.
Oui, on faisait, Étienne Robial et moi, on faisait quelques illustrations comme ça, à gauche, à droite, et on est des mordus de puces. Alors aux puces, on a rencontré un mec qui nous a dit « je connais quelqu'un qui veut vendre sa librairie », qui était la librairie Futuropolis dans le 15e arrondissement. Et on s'est lancé dans l'aventure. On a racheté sa librairie et on est parti comme ça, alors qu'on n'y connaissait rien en bande dessinée. Et donc on a continué, donc d'abord une librairie, puis après une maison d'édition qui existe toujours.
Qui est devenue une grande maison d'édition de bande dessinée.
Voilà.
Rappelons au passage qu'Albert Algout est un grand spécialiste
de
bande dessinée.
Oh là là. Un amateur.
Non.
Un professionnel.
Un professionnel.
Ah,
un grand professionnel.
On est d'accord.
Ah oui. Quel modeste. Il connaît bien son sujet. Oui, ouais. Si.
Ah, s'il connaît quelque chose, déjà ça. 1996, le papa de votre fils vous quitte pour une femme plus jeune. Un vieux classique, coup de blues, puis coup de génie. Vous dessinez Le Démon de Midi, énorme succès qu'on a évoqué ici avec Michel Bernier. On va écouter un petit extrait, justement.
Tu es une maîtresse.
Qu'est-ce que tu vas chercher là? Est-ce que tu crois que j'ai le temps, moi?
Fais-moi la vitamine C, j'ai besoin de quelque chose pour me remonter.
La vitamine C, c'est comme cocu.
Si j'avais su, j'aurais été chiant. Si j'avais su.
Si j'avais su.
Si j'avais su.
Et moi, dans tout ça?
Ça change rien, toi. T'es la femme de ma vie.
Bah, c'est déjà ça, j'ai pas tout perdu.
Attends, il a tenu 12 ans.
Remarque, ça m'étonne pas, tu sais. Il a même essayé de me draguer.
Quoi?
S'ils vont chercher ailleurs, c'est que chez eux, c'est pas la joie. Hein.
C'est sérieux avec elle?
Je sais pas.
Tu l'aimes?
Je sais pas.
Tu dis quoi à ton fils?
Je sais pas.
Tiens, voilà tes chaussettes et tes slips et tes chemises.
Il a des milliers des mecs. Je vais tous les essayer. Les grands, les petits, les poilus, les chauves, les albinos, les écossais.
Je fais 95, 62, 95.
Ah, je veux dire, je suis au 06, 07, 22.
C'est un extrait du film. Si j'avais su, c'est la phrase qui revient
très
souvent.
Oui, bien sûr. Mais bon, tout ce qui est raconté là est vrai. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Je pense qu'on raconte bien que ce qu'on connaît bien. Hein. Donc, j'ai vécu tout ça.
Mais bon, voilà, c'est un énorme succès. Mais bon, c'est pour sortir d'une dépression qui était aussi énorme, apparemment.
Voilà, ben oui, parce qu'on a fait 22, 23 ans ensemble, quand même. Donc, ça fait un bail. Et puis, on avait un petit 2-3 ans. Donc, bon, pas été facile tous les jours.
On va passer à de la bonne nouvelle. C'est de l'an 2000 qu'il s'agit. Grand prix de la ville d'Angoulême, pardon, Festival BD.
Vous êtes
le prix d'Angougou.
Il y a le bois de Boubou et Angougou.
Voilà, exactement. Et vous êtes la première femme à recevoir ce prix. Et c'est un peu le César de la bande dessinée, le
voilà,
grand prix.
Voilà, c'est le César. Ah,
c'est le Graal, c'est la récompense suprême.
Voilà, et donc il y a eu Brett Escher avant moi qui l'a eu.
C'est un prix d'honneur. Hein,
un prix d'anniversaire. Au 10e anniversaire. Ce qui est totalement injuste parce qu'elle était bien avant moi.
Enfin, vous êtes la première à le recevoir officiellement.
Oui, voilà, je suis la seule. Et la seule toujours.
Oui, la seule toujours, c'est là où c'est un peu ça devient problématique.
Oui, d'ailleurs, c'était l'année dernière qu'il y avait eu un petit mouvement de colère, ça avait grondé.
Oui. 2 ans, oui.
C'était il y a 2 ans, puisqu'il n'y avait aucune femme au départ.
Vous aviez coécrit et signé un texte dans Le Monde, si je ne me trompe.
Exactement.
Une tribune dire l'insuffisance de cette situation.
Oui, on a créé un site qui s'appelle les créatrices de bande dessinée.
Il y a de grands auteurs de bande dessinée.
Bah, ici, on en reçoit beaucoup.
Mais oui. Sur 50 noms d'auteurs de bande dessinée, ils ne sont pas capables de sortir un nom, une femme.
C'était invraisemblable.
Invraisemblable.
Bah, c'est dans tous les domaines. Hein. C'était la semaine dernière, je crois que c'était l'émission Top Chef. Ils recevaient 100 meilleurs ouvriers de France.
Oui.
Il n'y avait pas une seule femme.
Voilà.
Waouh.
Il y a quelques progrès à faire. Alors.
Comme quoi, les femmes ne sont pas impliquées. Non, mais oui, il y a du boulot. Peut-être, c'est peut-être ça. Au final, elles ne savent pas cuisiner. C'était une intervention de mademoiselle Turburu. Voilà, la date peut-être, allez, je me lance, la plus importante de votre carrière. 18 mars 2018, vous venez à France Inter dans Vous les femmes. Vous venez nous voir pour le tome 2, Les filles des oiseaux. Alors, avant de parler du tome 2, faites-nous un petit résumé du tome 1.
Alors le tome 1, c'est la jeunesse que j'ai vécue en pension à Honfleur, chez les sœurs. Mm-hmm. C'est moi qui avais demandé à mon père d'aller en pension. J'étais plus bien chez moi.
Qu'est-ce qui vous gênait chez vous? Qu'est-ce qui allait pas? C'est ce qu'il y a dans la BD? C'était l'ambiance à la maison?
Je ne me suis jamais entendu que mon père. J'étais le vilain petit canard de la famille. Donc à 12 ans, j'ai dit je veux aller en pension. Donc je suis partie chez les bonnes sœurs. Et c'est une pension un peu pour redresser les filles de bonne famille, pour les remettre un peu dans le bon chemin. Et donc il y avait des filles aussi bien qui venaient de Paris et de Neuilly, et puis des filles du paysan d'à côté parce que c'était plus pratique. Mm-hmm. Voilà. Et donc, il y avait un mélange comme ça de filles. Et moi, j'étais très amie avec une fille de paysan à côté. On s'est vraiment bien marrés. Donc, c'est cette histoire d'amitié voilà, qui va durer toute la vie. Je la vois toujours.
Est-ce que ça a amélioré la relation avec votre père?
Ah non, du tout. Du tout.
Alors, c'est pas une solution, alors.
Non.
Donc, c'est le tome 1, ça, qui est très, très drôle. Si vous prenez le 2, n'hésitez pas à acheter là. Je précise qu'on peut lire le 2 sans avoir lu le 1, mais... C'est quand même mieux. Alors, le tome 2, que deviennent-elles ces deux copines?
Eh bien, c'est après 68, et donc c'est l'après 68. Donc chacune va prendre un virage différent. Il y en a une qui va être plutôt sérieuse et qui va créer une maison où elle fait des choux à la crème, un peu comme Hermé pour les
macarons.
Les macarons, voilà. Et donc elle fait des choux à la crème et ça marche très bien. Et donc elle réussit. Et l'autre va plutôt partir en Angleterre pour être chanteuse, mannequin, tout ça. La folle vie anglaise et se perdre un peu dans tout ça, quoi.
D'accord. On se perd et se retrouver aussi.
Après se retrouver un peu plus tard. Mais c'est vraiment un reflet de l'époque, hein, de l'après-mai 68. Mais ça n'oublie pas d'être drôle.
Ben voilà. Non, mais toujours, oui, c'est quand même ma marque de fabrique. C'est pas facile. C'est pas les gens, hein, des gens qui sont censés être drôles, on en croit souvent.
Et ça marche pas forcément.
C'est pas facile d'être drôle.
C'est du boulot. Hein. Si je sais être drôle, c'est du boulot.
Comme le veut la coutume, souvent on dit c'était mieux avant, c'est le cas. Ou pas quand on
Non, c'était formidable, mais bon, voilà, c'est un témoignage d'une époque. Mais
il y a d'autant moins de nostalgie qu'il y a un œil critique et satirique sur cette époque. Il y a à la fois les bons côtés, les espoirs, les aspirations formidables, et en même temps, beaucoup d'ironie sur certains excès ou sur certaines espérances qui étaient
les promesses et les rêves de l'époque.
Oui. Mais c'était fou, il y avait une espèce de lâcher où tout le monde faisait des spectacles un peu bizarres et tordu dans tous les sens, et on baignait dans tout ça, quoi. Donc il y avait des choses bien, puis des choses moins bien. Mais
et c'est pour ça que les lecteurs peuvent être de toute génération. Moi, des adolescents, je leur recommande vivement la lecture, parce qu'ils auront comme un sismographe d'une époque qu'ils n'ont pas connue, et qui va les faire marrer, et qui va les faire rêver aussi.
Oui, bien sûr. Puis surtout, on était déguisés, on était habillés en fluo, avec des pattes d'eff et des trucs comme ça, on était complètement déguisés.
Alors, vous dites, hein, c'est dans la BD, c'est très drôle. Il y a le théâtre d'auteur, là, on a l'impression qu'on est invité à un spectacle dans la cour des papes d'Avignon, des spectacles qui font 15 heures, il faut que tout le monde trouve ça génial. Oui. L'art contemporain, les happenings, les différentes formes de jazz aussi. Voilà. Il faut trouver ça vraiment formidable, même si c'est un ami que ni tête.
Dès qu'on égorge un cochon, surtout le free jazz. Oui,
le free jazz. Oh
mon Dieu, ça pourrait être terrible.
Est-ce que c'est une BD qui se veut un peu féministe?
Oui, quand même, il y a un petit fond, oui, toujours. Oui, il faut, c'est nécessaire. Même si c'est traité avec humour. Je dénonce et je rentre un peu dans l'art.
Ce qu'on se disait avec Albert. C'est vrai qu'il y a, une teinte qui est féministe, mais c'est sans agressivité, sans rien, c'est juste des suggestions. Et c'est vrai que le truc principal, c'est que c'est très drôle.
Merci.
Je vous en prie. Après les rêves, il y a aussi les réalités d'une époque, et puis aussi des chamboulements. Là, je pense à l'avortement, la maladie, le travail, les déceptions amoureuses.
Bien sûr, tout ça. La drogue, où on a perdu quand même pas mal d'amis. Et puis après, il y a eu le sida, on a perdu des enfants. Et donc,
des grandes réussites de cette bande dessinée, c'est que certains problèmes très graves, comme le sida, l'annonce de quelqu'un qui est malade et qui va mourir, vous le traitez dans une BD qui est drôle également, qui est tragicomique à certains endroits. Et ça, c'est très difficile à réussir. Et vous le réussissez vraiment bien, quoi.
Oh, j'ai bien fait de venir.
Florence Sestac, la BD s'appelle Les filles des oiseaux. C'est le tome 2 qui est sorti avant-hier aux éditions d'Argo. Les dates qui ont compté dans le parcours d'Isabelle Uthur-Beru en commençant. 2001, 18 mai, Miss Pau Béarn, c'est votre maman qui vous inscrit pour que vous preniez confiance en vous. Vous étiez une petite fille refermée, repliée?
Pas forcément, enfin je m'en rendais pas compte. Moi j'étais très heureuse dans ma vie, mais j'étais un petit garçon manqué.
Et vos amis imaginaires?
Non, j'étais la bonne copine des garçons justement. Mais c'est vrai que j'étais pas très féminine et pas très... Je me regardais pas du tout, quoi. Voilà, j'étais une enfant un peu mince, voire maigre, mais je le vivais très bien. Hein, mais c'est vrai que, bah, elle a eu raison. Sur le moment, quand j'y pense, je me dis que c'est quand même l'opposé qu'elle a fait, mais ça, c'est très risqué. Ma maman était épicière et fille de paysan, donc je pense qu'elle avait pas du tout la notion de ce que ça pouvait engendrer, mais elle a eu raison. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien, peut-être de me regarder, tout court, dire que j'existais.
Et le soir de cette élection, vous faites une rencontre qui est déterminante, c'est André Labarrère.
Le maire de Pau, député maire à l'époque, oui. Bon, forcément, c'était le maire de Pau.
C'était un personnage.
Exactement, je le savais pas à ce moment-là. J'ai eu l'occasion, du coup, pendant un an, puisque c'était la mission de la Miss Pau, tout court d'ailleurs, parce que tout le monde écrit Pau et Berne, la Miss Pau, c'était vraiment un tout petit truc local, c'était pas du tout avec Madame de Fontenay, rien à voir.
Non, mais c'est régional. Oui.
Et du coup, j'ai accompagné voilà, sur les matchs de la région, dans des concerts, enfin, il m'emmenait un peu partout. On rappelle qu'il est homosexuel, hein, parce que pour tout dédramatiser.
Mais c'est pas un drame, vous savez.
Et je pense que le fait que je sois très garçon
manqué... Il était courageux de le dire à l'époque.
Exactement, c'était le premier, voilà. Vraiment, et on s'est très bien entendu. Et quand je dis que ça m'a fait du bien, c'est pas l'élection en tant que telle. Ça, c'était une petite soirée.
C'est anecdotique.
Voilà, c'est qu'il m'a ouvert un peu au monde. Voilà, il m'a ouvert à la société, il m'a emmené partout. Et c'était un plaisir, il était très drôle. Donc on s'est beaucoup amusé.
On passe en 2011, en septembre, le 9 septembre pour être précis. Coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, c'est en Nouvelle-Zélande. Et le patron des sports de Canal vous confie la présentation d'une quotidienne. Jour de Coupe du Monde.
Oui, ça a été mes premiers pas sur Canal+, parce que j'étais sur InfoSport+, ouais, qui était une petite chaîne du groupe. Et alors pas toute seule, hein, j'étais avec Eric Bail, le grand patron du rugby.
Oui, mais quand même.
Mais oui, exactement, ils m'ont fait confiance. Et voilà, c'était Cyril Linette à l'époque. Je le remercie toujours parce que... Qui aurait cru, vu mon parcours, qui aurait cru et
pas Miss Pau quand même. Les indicateurs étaient tous ouverts.
Oui, parce que 10 ans plus tard. Hein. Non. Entre temps, ils s'en dépassaient des choses.
Mais vous avez joué au rugby un peu ou...
Pas du tout, mais ça va pas. Vous avez vu mon physique. Je me ferais couper en deux. Je regardais beaucoup le rugby depuis toute petite avec mon papa. C'était vraiment le sport.
Mais il faut pas dire ça parce que justement, je trouve qu'un des trucs du rugby qui est sympa, c'est qu'il y a tous les physiques. Il y a des gros balèzes et des petits.
Oui, mais même les petits, je peux vous assurer. Ils sont musclés, ils sont hein. Sinon ils se font découper quand même.
Bon, j'ai rien dit.
Mais c'est vrai que comparé aux costauds, ils ont l'air petits, mais non, c'est rare.
Et puis en quelques années, le rugby féminin a beaucoup beaucoup progressé.
Exactement, à l'époque, c'était pas du tout comme
maintenant. Recrute de nombreux adeptes aujourd'hui.
Oui, hein. Exactement.
Et c'est formidable.
C'est toujours amateur, peu professionnalisé.
Au bon sens du terme.
Mais c'était alors à mon époque, c'était vraiment plus qu'amateur. Et d'ailleurs, ça se faisait pas autant qu'aujourd'hui. Oui. Voilà, une fille qui joue au rugby, c'était encore mal vu.
C'est rarissime et mal vu.
Et vous faites l'affaire pour le rugby sur Canal, puisque en novembre 2015, avec Sébastien Chabal, c'est le Canal Rugby Club. Donc là, c'est vraiment la marque de confiance, c'est pérenne, c'est une fois par semaine.
C'est la première émission en clair, en tout cas une émission gratuite, que sur le rugby, de l'histoire de la télé française. Donc c'était une vraie révolution, puisque le rugby était en 95% sur Canal+, encrypté. Ouais. Et donc ouvrir ça au plus grand public, et avec Sébastien Chabal, qui est, je pense, la personnalité la plus connue du rugby
la plus
français
marquante,
aujourd'hui,
cas, ouais.
voire européen. Ouais. Et c'était une grosse marque de confiance et ça marche super bien. Et je pense qu'on est en train aussi d'ouvrir le rugby à des gens qui ne s'y intéressaient pas avant. Et c'est super parce que le foot, c'est très populaire. Le rugby, beaucoup moins. Donc petit à petit, je me dis, on met une petite pierre à l'édifice.
Mais au-delà de vos compétences, vous pensez que c'est pour apporter une touche un peu glamour qu'ils vous ont choisi pour incarner le rugby ?
Alors au début... Très sincèrement, ils m'ont choisi parce que j'étais fan de ce sport et que c'était rare.
Enfin, ça suffit pas
d'être mais fan. C'est un sport qui est très compliqué à expliquer ou à raconter quand on n'y connaît rien parce que c'est pas du. Je vais mettre tous les footballeurs à dos, mais c'est pas aussi simple que le foot. C'est fait.
Non, le foot, ce sont des règles très très rudimentaires.
Daniel Morin aime beaucoup le foot.
Moi aussi.
Mais c'est ce qui fait que c'est très populaire. Et que même moi, qui suis pas féru de foot, j'aime voir un beau match de foot. C'est facile. C'est très accessible. Ça l'est pas pour le rugby, mais évidemment, je continue ma réponse. Évidemment qu'ils se sont dit, si j'ai un homme et une femme qui aiment autant le rugby, je vais marquer un coup, un grand coup, si je mets une femme. On n'en a pas vu encore. Si en plus elle assume sa féminité, et c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai proposé, j'ai dit, est-ce que je remets que des pantalons, des pulls, le col roulé?
Est-ce que je me laisse pousser la barbe?
Voilà, mais c'était déjà pris avec Sébastien. Et j'ai aimé que Canal me dise, tu fais comme tu le sens, parce que on sait que tu aimes ça, on sait que tu sais de quoi tu parles, donc tu peux assumer ton physique et on m'a pas caché.
C'est vrai qu'à côté de Sébastien Chabal, même une mobilette a une féminité très développée.
C'est ça. C'était très pratique.
La comparaison.
Ben oui, évidemment. En 2016, c'est le tube, l'émission média, la grosse émission média de Canal, on vous la confie.
Ben voilà,
encore une fois,
de confiance. Oui, oui. Mais parce que Canal+,
j'adore les médias et ils m'ont dit, bah tiens.
Canal+ m'a fait grandir. Non. Canal+ m'a découvert parce que, encore une fois, vous l'avez dit, j'étais dans le commerce international. Hein. J'ai jamais voulu être ni journaliste, ni à la télé, ni.
Ni Miss Po.
Non plus, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'était assez court. Et du coup, ils m'ont fait grandir. Et c'est eux, petit à petit, au fil des années, bah ça, il s'en est passé hein, depuis 2009. Donc ça faisait 7 ans que j'étais à Canal+. Et ils m'ont dit, voilà, tu es très bien là où tu es. Est-ce que tu veux petit à petit apprendre d'autres aspects de ton métier? Évidemment, ça m'intéressait, mais je voulais que ce soit assez logique. Et en dehors du rugby, c'est très dur de trouver quelque chose qui colle au rugby. Donc forcément, ça allait pas être du sport. Et quand le tube a changé d'animatrice, ça s'est passé comme ça. Ils m'ont proposé cette émission. J'aurais pu dire non. Et j'avais déjà dit non auparavant à d'autres émissions sur Canal+.
Lesquelles?
J'aurais pu faire le chroniqueur sur le Grand Journal. Je pensais que ça ne collait pas du tout à ma personnalité et à ce que j'aimais. Évidemment, je suis pas passionnée de la télé comme je le suis d'un sport qu'on connaît depuis toute petite. Voilà, c'est une madeleine de Proust.
C'est une forme d'intérêt aussi.
Mais c'est ça. Par contre, j'ai l'impression de baigner dedans quand même depuis plus de 10 ans, d'avoir été une enfant de la télé. Ça me paraissait pas fou. Et puis, je leur ai dit, voilà, si je peux amener dans les interviews médias la touche rugby, c'est-à-dire quelque chose de plus simple et de plus sain peut-être que le monde de la télé et de l'audiovisuel, qui n'est pas toujours très simple et sain, on pourra peut-être faire un petit décalage sympa. Voilà, donc ils ont eu confiance.
Et justement, là, vous qui avez un double poste d'observation, que ce soit le rugby ou les médias, c'est dans quelle discipline qu'on prend le plus de mauvais coups? Les médias ou le rugby?
Les médias.
Ouais, sans comparaison.
Qui font le plus mal, je pense, oui. Qui sont les plus longs à cicatriser, sûrement.
J'ai pas vu de traumatisme crânien dans les médias, alors que dans le foot, il y en
non,
a quand même.
On soigne un traumatisme crânien.
Fait longtemps que t'as pas croisé Nagui dans les couloirs. Hein. Les pires et les meilleurs souvenirs du tube, ça a été quoi?
Les meilleurs, ben Daniel Morin,
oh,
il y a peu.
Oh, imagine, ouais, ça devait être formidable.
Ok,
l'histoire. Et Nagui, le moins bon, le moins bon.
Il y a eu des moments de gêne, il y a eu des moments de...
J'en ai pas eu, j'ai de la chance encore, parce que c'est possible que ça arrive, hein, c'est sûr. Franchement, c'est pas de la langue de bois, ça s'est toujours très bien passé. Il y a des moments où je suis moins à l'aise parce que la personne en face de moi est pas ne dit rien ou ne fait que de la langue de bois ou n'est pas passionnée par ce que je lui raconte. C'est aussi un peu de ma faute sûrement, mais des fois c'est très rare. Mais il y a eu des fois où c'était moins, il y avait moins d'humeur que
ça arrive souvent, à Daniel.
Ouais, ah non, avec lui, c'était pas trop mal. Hein.
Mais pas aujourd'hui.
On va parler rugby maintenant. Pire ou meilleur souvenir? Je crois que ça reste un bon souvenir, ça. Match de barrage en 2014.
À Toulouse.
C'est à Toulouse. Qu'est-ce qu'on entend là d'un seul coup là?
C'est tout le public, 20 000 personnes qui écrivent mon prénom et qui chantent.
Isabelle.
Pendant un match que Toulouse est en train de perdre, un match en plus éliminatoire. Donc les supporters toulousains oublient pendant quelques minutes que leur équipe est au fond du sac et se mettent à chanter. Donc j'étais persuadée, parce qu'on a des oreillettes, que c'était les 50 personnes devant moi, parce qu'on est toujours près d'une tribune. J'ai l'habitude, il y a toujours les 50 devant, voilà, qui font le spectacle tout le long de l'émission.
Ouais.
Et puis d'un coup, j'ai mon commentateur, Eric Bail, qui me dit « Ah ben dis donc, on va devoir t'augmenter ». Donc, petite vanne, beaucoup d'humour, Eric Bail.
J'ai été augmenté
et du
ou pas
coup, non, même pas. Ah ouais. Et là, je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Mais c'est tout le stade, Isabelle, qui chante. » On l'entend. Et là, on est en pub, donc je me suis dit « Ça va s'arrêter ». Et je pense que j'ai fait au moins 3 ou 4 minutes de plateau avec tous ces cris. C'était assez dur, mais c'était magnifique. Enfin,
c'est génial. Oh,
ah bah
parce
oui.
Que du coup, quand on ressort, on est plus la même. On a l'impression d'avoir été adoubé, voire plus.
C'est
par
ça. C'est-à-dire qu'on parlait de femmes dans un milieu d'hommes. Même si ça allait quand même très bien pour moi, c'était pour moi la plus belle marque de confiance au-delà de la chaîne. C'est que les supporters de rugby m'aient adopté. Voilà.
Validé.
Validé.
Un peu comme un meeting de Macron.
Pour que ce soit parfait, il manque plus que cette petite augmentation. Il manque plus que ça. Vous ne trouvez pas, Florence, qu'Isabelle a un profil de personnage de bande dessinée?
Ah mais on peut tout faire en bande dessinée.
Non,
je peux
mais
tout
hyper,
faire.
Hyper varié.
Vous aussi, hein, vous aussi. Hein.
C'est vrai,
on va faire un duo.
On va faire un duo.
Surtout oui. Daniel. Oui.
Décrivez Daniel pour les auditeurs, Florence.
On va passer au titre qui me rappelle un souvenir.
Et Albert, j'ai déjà fait. Et Albert, je l'ai déjà fait.
Ah, en soutane?
Ah oui.
Non, normal, comme ça.
Ouais,
voilà.
Normal, ouais. Ah ouais.
Comme ça, il devait déjà être magnifique. On vous a demandé, je le répète, un titre qui vous rappelait un souvenir. Mesdames, on va commencer par, tiens, Isabelle. Quand on vous a demandé, vous nous avez demandé ça.
Qui
Kids, Stand on the World. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors, ça, je l'ai découverte ce titre sur Police, le film de Mai Wen.
Ouais.
Et c'est une scène assez mythique où Joe Star se met à danser en boîte de nuit. Et
il danse très bien.
Mais oui. Et justement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est devenu d'abord un petit running gag quand on sortait avec mes deux meilleurs amis où on dansait un peu comme Joe Star. Et depuis 10 ans, ça nous accompagne jusqu'à il y a peu le mariage d'une d'entre elles où voilà, on a fait toute une vidéo surprise sur ce titre. Entre autres, en pleine nuit, un peu éméché, danser devant la pyramide du Louvre, en plein milieu des voitures, sur ce titre à fond, avec une baffe. Enfin voilà, petite folie entre copines.
Je comprends pourquoi vous n'êtes pas augmenté. C'est un risque. C'est un risque.
Voilà, Isabelle Diorbéry
est un risque. Florence Estac, quand on vous a demandé le titre que vous vouliez, vous nous avez demandé. Jeff Gilson, c'est une composition des Pharoah Sanders, c'est Karma. Qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir?
Une période où on fumait pas que du tabac. Ouais. Et, et c'était joyeux, c'était tranquille, c'était oh là là, puis ça durait longtemps.
C'est bien Pharoah Sanders.
Ah, oui.
On va voir si ça prend, on va l'écouter un petit peu.
Il faut l'écouter très fort.
Bon, très fort. C'est vous qui décidez, c'est vous l'invitez.
Ah, il y a le cochon qu'on égorge.
Ah, il gâche tout. Ah, le salopard.
Ah, mais c'est Florence qui, à un moment, évoque ce genre de cri dans Les Filles des Oiseaux. Il se laisse pas faire le cochon, là.
Là, on rigole, mais pendant ce temps-là, Isabelle Turburu n'est toujours pas augmentée. Mais ça ne va pas tarder. Canal+ continue à l'exploiter. C'est une honte. Vous avez une longue période comme ça, détente, amis, fumette
Oh non, non, ça peut durer très longtemps. Enfin, j'ai fini là, c'est fini.
Mais c'est oui, mais à l'époque.
Oui, à l'époque, oui, on fait des petits pétards, oui. Ouais. Mais jamais plus, hein. Jamais débordé.
Jamais plus. Hein. Le petit pétard de l'époque.
Oui, oui.
C'était conjoncturel. C'est l'époque qui voulait ça. C'est
voilà,
ça.
Voilà,
c'est
voilà. Ça. Oui, c'était mal ça. Élevé de refuser le pétard.
Il y a prescription.
Hein. Ah, bah oui.
Donc, un bon souvenir.
Oui.
Isabelle Iturburu, Florence Sestac, on va revenir sur vos vies, mais façon inter. Façon inter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vérifier que vous êtes généreuse, en empathie avec les moins chanceux que vous, les pauvres. Bref, on va faire un petit point à lutte des classes. On va vous interiser. Florence Sestac, femme de lettres, femme de bulles, femme à lunettes. Elle aurait pu être une de ces sirènes de compassion qui offre par son travail et son écoute du réconfort aux petits, aux exclus, aux rejetés moraux de la société. Florence Sestac est-elle cette femme de cœur? Non! Bien sûr que non! Elle préfère de loin aller de cocktail en réception où les bulles, cette fois alcoolisées, lui montent à la tête direction le mépris, l'empêchant de s'arrêter parfois aux étages de la commisération. Vilaine! Est-on mieux loti avec Isabelle Turburu? Le combat social est-il avec les giribasques plus protégés? La lutte des classes peut-elle prendre le dessus grâce aux bras armés de la Valkyrie sociale de Canal+? Non! Bien sûr que non! La princesse du royaume de la troisième mi-temps, elle préfère, et de loin, s'encanailler dans les vestiaires velus et odorants du top 14 ou dans les loges cocaïnées du cylindre cathodique qu'on appelle tube. Méchant! Mesdames, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des garanties de soutien prolétarien et encore moins des exemples à suivre, mais bon Dieu, ce qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Florence, Isabelle, ne changez rien! John Jones and the Education Smile. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Après, tout le monde s'en va pour aller signer, pour présenter de la télé. On verra bien avec qui je resterai. Vous les femmes. Ask me how I'm doing. Smile and say just fine. And there's no need to ask me, brother, what I've been doing the past the time.
I'm sorry. With the guilt that I can't stand. Upon your chest, your arms are folded. With the bottle in your hand.
Duran Jones on the Indication Smiles dans Vous les Femmes sur France Inter jusqu'à 18h.
Vous les Femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais, étant ouais. Sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Les Filles des Oiseaux, tome 2, paru avant-hier chez Dargo. C'est signé Florence Sesta, qui est notre invitée. Invitée également Isabelle Iturberu, présentatrice du Tube, l'émission média de Canal, Canal+. La partie en clair, c'est juste après l'émission, enfin c'est 35 minutes après la fin. Canal Rugby Club, exactement, les invités. Je vais vous poser encore quelques questions. On commence par vous, Florence. 2001, présidente du jury à Angoulême. Est-ce que ça s'est bien passé?
Mais oui.
En 2001, vous aviez qui dans votre jury?
Eh bien justement, cette année-là, j'ai composé le jury de 9 femmes et un homme. Et l'homme, c'était Albert Algout.
Quelle question bienvenue.
Comme c'est gentil de l'évoquer.
C'est comme il nous a fait rire, l'Albert Algout, je me souviens. Oui, je me souviens,
c'est
le
gentil.
Soir de la délibération.
Alors ça se passe comment, les soirs de délibération? Tout le monde est bourré, tout le monde écoute
Surtout.
Pas forcément, mais bon, il faut trouver des prix, il faut faire tomber des prix.
Florence était dans un état.
Qu'est-ce qui a eu le premier prix?
À l'époque, c'était Marjane Satrapi.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc Albert Algout est quelqu'un qui s'y connaît, je
me doute. Oui, bien sûr.
Isabelle, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez été Miss Po en 2001. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2007?
It's like rain on your wedding day, it's a free ride.
Qu'est-ce que vous en pensez, Florence?
Que du bien.
Je le dis bien,
c'est gentil. C'est que du bien. Ça fait une...
Alors, je vais être honnête avec vous, Isabelle. J'ai tenu à l'écouter avant de le passer. C'est pas du tout honteux. C'est vous qui postulez à la Nouvelle Star.
Ouais.
Et quand on sait que devant vous,
c'est moi.
Quand on sait que devant vous, il y a André Manoukian, il faut beaucoup de courage.
Oui, et ben j'en avais pas assez. Et donc malheureusement ou heureusement, je suis allée presque trop loin. Donc voilà, j'ai eu la chance de passer les castings avec succès et d'aller en prime sur M6. Et alors là, j'ai découvert la télé. Parce que là vraiment, je venais de mon petit Sud-Ouest.
Qu'est-ce que vous avez découvert?
Non, mais l'angoisse, le stress.
Qu'est-ce qui était stressant à part
d'être jugé déjà, et puis de savoir que autant de gens allaient regarder, juger. Mes parents étaient venus de Pau. Enfin, c'était. Oh là là, c'était terrible. Et du coup, j'avais 1 minute 30. Je crois que j'ai chanté en apnée. J'ai mal chanté. J'ai été éliminée.
Mais non, vous n'avez pas mal chanté.
Ah si, non, mais on ne parle pas de ce que vous avez passé. On parle du direct, devant 5 millions de téléspectateurs. Et puis après ça, je chantais depuis mes 18 ans avec mon frère dans un petit groupe, un orchestre de bal dans le Sud-Ouest. On faisait les fêtes de village. Donc, il y a notre argent de poche comme ça. Mm-hmm. Je m'éclatais. Je ne chantais pas extrêmement bien, mais ça m'amusait. Je n'ai plus jamais rechanté. Ça m'a traumatisée.
Mais si vous avez fait La Nouvelle Star, c'est, vous vouliez être chanteuse ou c'était un défi ou c'était...
On va reparler de ma confiance, mais pour le coup, c'est aussi des copains qui m'ont dit, vas-y. Alors, je ne chantais plus puisque j'avais déménagé à Toulon, je ne pouvais plus faire ce que je faisais avec mon frère. Et c'était pour le plaisir. Franchement, je ne pensais pas passer les castings, donc c'était aller voir ce que pensaient 4 personnes en qui j'avais beaucoup de respect, le jury. Et ça allait s'arrêter là. Ça aurait dû s'arrêter là. Malheureusement, ça allait plus loin. Et voilà, et on se rend compte tout de suite qu'on n'est pas fait pour ça. Voilà, au moins, ça élimine.
En tout cas, ça, c'est fait.
Voilà.
Vous savez, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas le refaire, en tout cas. Voilà, c'était Isabelle Iturburu dans La Nouvelle Star. Et nous, on avait trouvé ça très bien et qu'on pouvait le passer sans honte du tout. On a appris également qu'entre l'âge de 7 ans et de 22 ans, vous faisiez de la danse folklorique.
Basque, oui.
Oui.
Alors j'ai moins honte là.
Ah, allez, parlez-nous, parlez-nous de la danse folklorique.
Ben en fait, là aussi, bon, j'habitais à Pau, donc c'est le Béarn, hein, mais mon papa est basque, ça se voit et ça s'entend tout de suite dans mon nom. Super, la petite musique qui accompagne. Et,
c'est nous qui avons fait ça avant
l'émission. Vous savez, quand on arrive au primaire, il faut faire un sport. Et bon, je n'avais pas trop envie de faire de sport. Et voilà, ma maman m'avait montré les options et j'avais vu cette amicale des Basques de Pau. Et j'avais une admiration, comme j'adorais ma grand-mère paternelle, pour le Pays basque et la culture basque. Et du coup, j'ai foncé là-dedans. Et voilà, et tous les week-ends, pareil, je faisais des petits spectacles de mes 7 ans à mes 22 ans dans les maisons de retraite, dans les salles de village, on avait un chœur basque de chanteurs. Ça vous fait rire, hein? Mais j'ai adoré. Et je n'ai arrêté que parce que j'ai dû partir de Pau. Pareil, à 22 ans, j'étais devenue monitrice pour les petits.
Pourtant, il y a des maisons de retraite à Paris, vous pourriez peut-être faire la tournée.
Il y a moins d'amicales de basque. Il y en a une. Alors, ils ont tellement tenté de me faire venir. Oui, mais non, mais je ne pouvais plus.
Vous dansez pour les vieux animateurs de Canal ou pas?
Personne ne m'a demandé.
Ah, ce sera bien, pourtant.
Alors, vous savez, on a beaucoup de personnes âgées à France Inter. Est-ce que vous feriez la joie de venir pour danser un jour pour les vieux de France Inter? Vous savez, ça leur ferait plaisir. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce serait toujours ça de gagner.
On verra.
Et vous êtes habitué au bénévolat, apparemment, puisqu'on vous refuse cette augmentation depuis tellement d'années.
Arrêtez, je vais me faire descendre.
Mesdames, vous savez tout le bien qu'on pense de vous, de votre œuvre, mais je vais laisser la parole maintenant à un homme qui sait mieux que quiconque, hein. Pourquoi vous êtes venus nous voir aujourd'hui? Ils sont venus à plusieurs, attention, on vous écoute. Jean-Michel Apathy, Jean-Georges Guettari et Jean-Philippe Pétain.
Chère Florence Cézotac, chère Isabelle Hirutu, bonjour et merci d'avoir choisi de vous entretenir avec Daniel Morin dans ce programme dominical entièrement consacré à des personnalités féminines. À la différence de mon cousin Jean-Michel Apathy, n'ayez crainte, avec moi, pas d'interview sans concession.
Jean-Michel, est-ce que vous pourriez procéder à la promo des invités, s'il vous plaît?
Daniel Morin, je sais que le temps presse, mais contrairement à ce que vous espérez, ainsi que Christine Kern, qui œuvre en régie à la préparation de ce programme, je me tamponne gravement le coquillard des travaux respectifs de vos invités et franchement, je n'en ai strictement rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est la provenance des personnalités que vous recevez présentement.
Pas très journalistique, Jean-Michel.
Et alors, Isabelle Iturburu, vos origines sont très proches des miennes. Certes, vous êtes née à Pau et par conséquent, vous êtes béarnaise, comme la sauce du même nom, mais du sang basque coule dans vos veines, puisque votre père, vous venez de le dire, est intégralement basque comme moi et comme le béret du même nom. J'ai donc demandé au neveu d'un autre basque célébrissime de rendre hommage à vos origines, Jean-Georges Guettari. Bonjour, c'est à vous.
On va chanter le refrain avec lui.
C'est à moi maintenant.
Allez-y.
Bonjour. Il est un coin des Français où les bonnes fleurissent, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on est capable de commencer durant toute sa vie.
Arietum chiquitum, arietum laire, arietum chiquitum, arietum laire, arietum chiquitum, laire, olé.
Il y a eu un petit couac de la fin.
Oui, on a
et je crois qu'Isabelle l'a remarqué.
Oui.
Mais je vous remercie tous.
Merci Jean-Georges Guettari. Merci Jean-Michel Apathy.
Je reviendrai.
Florence Cestac, je crois qu'un autre cousin de personnalité tient à parler de votre album Les filles des oiseaux. C'est dit de Jean-Philippe Pétain, le neveu d'un célèbre maréchal.
Femmes de France, et vous, mamans des familles françaises, en ces heures douloureuses ou dans un immense sursaut, j'appelle le pays tout entier à se racheter de ses défaillances morales. Voici qu'une très mauvaise femme, Florence Cestac, dont le talent de dessinatrice n'a d'égal que l'imagination dévoyée, désaxée et la liberté de penser, publie un album qui d'un côté dénigre toutes les valeurs morales et spirituelles qui firent la grandeur de notre beau pays et qui par ailleurs exalte tous les relâchements de la décadence. Prétendue libération de la femme, contraception, aberration sexuelle, pédérastie, éloge désinverti, art dégénéré, rock'n'roll satanique, glorification du vice sous toutes ses formes. Femme de France, je n'aurai qu'un cri. Ne lisez pas « Fille des oiseaux », tome 2, chez Dargaud. Et surtout, n'écoutez pas cette émission. Adieu.
Merci, Maréchal. C'était très agréable de vous entendre. Ça, c'est de la bonne promo. Manitou, Mani, voilà M. M et ses amis.
J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère.
Mani, tout Mani, M, avec toute sa grande bande d'amis.
Vous les femmes...
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Et nous sommes toujours avec Florence Sestac qui signe la BD Les Filles des Oiseaux, le tome 2 chez Dargaud. Le livre est paru avant-hier. Isabelle Iturbereux, présentatrice du Tube à l'émission Média de Canal Plus et du Canal Rugby Club dimanche de Top 14, qui sera en clair à 18h35. C'est bien ça, chère Isabelle ?
Exactement ça.
Vous avez participé au projet Les Cœurs Simples. C'est quoi comme projet ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît, Florence ?
Vas-y, Albert, c'est son projet, c'est son truc à lui.
Mais vous m'avez dit, Albert, voilà, que très gentiment et de façon très généreuse, voilà. Florence avait participé.
Elle a participé, elle a joué un rôle important, j'allais dire d'incitation. Parce qu'au départ, donc, j'avais réuni des textes de grands auteurs où apparaissent de manière fugace ou plus importante des handicapés mentaux, des simples d'esprit, des crétins des Alpes et d'ailleurs. Par exemple, Quasimodo de Victor Hugo, par exemple, Des souris des hommes de Steinbeck, etc.
Donc une quarantaine de textes littéraires. Et je voulais les faire illustrer par des grands auteurs de bande dessinée qui vont de Bilal à Zeb en passant par Tardy, etc. Et la première à m'avoir donné un dessin, pas à moi, mais pour cet ouvrage, dont les droits d'auteur vont à un fonds de dotation qui s'occupe d'adultes autistes, en grande difficulté, sans solution, et ben ça a été Florence. Elle m'a encouragé, elle est citée dans la préface d'ailleurs, parce qu'elle m'avait dit, tu verras, le milieu de la BD, ils sont sympas et généreux. Et ça a été vrai. Et donc, voilà. Ça a été elle a été une incitation dans cette aventure des cœurs simples qui a pris quelques temps, mais qui fait un très bel ouvrage. C'est Casterman. Et donc, je vous incite, chers auditeurs et auditrices, vous les femmes, à l'acheter pour une bonne cause.
Et c'est un très beau livre.
Et c'est vraiment un très, très, très beau livre. Et des textes absolument magnifiques, très divers d'inspiration.
Alberto, vous avez la main. Mesdames, attention, c'est l'heure des cadeaux. Les cadeaux d'Alberto.
Pour vous, Florence, un polar de l'auteur s'appelle K. Ça a été un prof de philo. Il est mort en 95 et il était auteur de romans policiers tout à fait remarquables. Et alors, celui-là a un titre un peu long. Il ne faut pas déclencher les puissances nocturnes et bestiales. C'est à la petite Vermillon, à la table ronde. Alors, le héros de ce roman, c'est un solitaire sans attache, si ce n'est dans le milieu mortifère des voyous. Et il traverse son époque. C'est les années 80, justement, en laissant derrière lui un sillage de sang sulfureux et violent. C'est formidable. Pour vous, Isabelle, dans la même collection de Gérard Guégan, Le sang dans la tête, c'est aussi un excellent polar. C'est dans La Petite Vermillon. Alors, je tiens à signaler que La Petite Vermillon choisit pour ses couvertures des auteurs de bandes dessinées ou des illustrateurs contemporains. Il y a notre ami Loustal, par exemple.
Stéphane Trappier.
Elle a Stéphane Trappier, voilà. Oui, oui. Qui est aussi dans Les Cœurs Simples, d'ailleurs.
Oui,
comme Loustal. Et pour vous, Daniel, très rapidement, Dictionnaire amoureux du jazz de notre ami Patrice Blanc-Francard, qui nous avait dirigé quand il était à la tête du Move, et on faisait la Morinade ensemble. Allez. Et justement, il y a une entrée, Ella Fitzgerald, qui a interprété une de vos chansons fétives,
les chansons fétives,
Une chanson qui est
Put It On The Ritz, chanson formidable qu'on avait écoutée.
Et pour vous, Hervé, Les Cœurs Simples,
chez Casterman. Ah merci, mais je l'ai.
Tout le monde est servi. Il l'a déjà, donc je vais le repiquer.
Mes amis, je suis désolé, mais c'est déjà la fin de cette émission. Aujourd'hui, nos invités étaient Florence Sesta, qui signe la BD Les Filles des Oiseaux, tome 2 chez Dargaud, livre paru avant-hier, à Isabelle Uturbulu, présentatrice du tube L'émission média de Canal+, c'est le samedi à 12h45, également du canal Rugby Club. Le dimanche, ce sera en clair d'ici une grosse trentaine de minutes, avec Sébastien Chabal. Merci infiniment à toutes
les
deux.
Moi,
il faut que je fonce au salon du livre.
Salon du livre en ce moment. Florence, il y a du monde dans tous les couloirs. C'est
ensemble.
Impressionnant. Merci Albert Algou, vous pouvez y aller. Merci Hervé Pochon à la réalisation de cette émission, Marianique Rimbaud, attachée de production, Christine Kern à la technique, Anne-Laure Cochet, programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nous aurons la ministre Marlène Schiappa qui sera installée ici à cette table. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h57 à Issa Pique.